Europe 1. Sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement Votre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter et qui chaque après-midi prend le pouls de trois personnalités qui avaient un point commun. Aujourd'hui, Mathieu, justement, leur pouls n'est pas très bon. Hein.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. En effet, leur pouls n'est pas bon, ou alors il est excellent, mais ils refusent de le croire. Car nous partons aujourd'hui à la rencontre des grands hypochondriaques de l'histoire.
J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se...
Et des hypochondriaques, Mathieu, l'histoire n'en manque pas. Commencez par vous.
C'est vrai.
Mais aujourd'hui, on va plutôt parler de Richard Wagner, un compositeur de génie qui avait peur de la maladie et qui n'hésitait pas à consulter plusieurs médecins d'affilée juste pour s'entendre donner le diagnostic qu'il avait lui-même imaginé. Puis je vous parlerai d'une histoire folle, celle de l'homme à femme et homme d'affaires Howard Hughes, qui avait peur des microbes et des germes au point de rester enfermé chez lui pendant plusieurs années, vous verrez.
Et on ne va pas parler de moi un moment parce que je suis vraiment un cas d'école. Hein.
Non Mathieu, non. On a fait un rapide sondage auprès de nos auditeurs à 99%, ils préfèrent entendre le portrait de quelqu'un de connu. Je veux dire de plus connu que vous.
Ok, alors je vous parlerai d'un type légèrement plus connu que moi, Michel Blanc, inoubliable Jean-Claude Duss.
Avec un D comme Duss.
Si dans la vie, Michel Blanc n'a pas grand-chose à voir avec son personnage dans Les Bronzés, il est en revanche totalement flippé médicalement, il croit toujours qu'il a une maladie orpheline, bref, il est hypochondriaque, un trait de caractère qui avait peut-être inspiré la fameuse réplique désespérée.
Je dis que ça serait dommage de mourir sans profiter une dernière fois de nos sens.
L'hypochondrie peut-elle être aussi une technique de drague? Nous verrons ça. Eux, Stéphane, n'ont pas peur de la maladie et pourtant, à force de s'enfourner des paupiètes de veau, des Paris-Brest et de tripoter de l'amiante à longueur de journée, on est en droit de s'inquiéter pour eux, ce sont nos chroniqueurs.
Oui, avec nous comme chaque jour, elle nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde, Clémentine Portier-Kaltenbach.
Et bonjour messieurs, aujourd'hui je vous propose une promenade bucolique et apaisante. Et justement, je me suis demandé à ce propos, voyant pointer le printemps, quelles étaient les fleurs préférées des rois de France.
Il en baille,
après il prétend qu'il aime l'histoire. Je vais réussir à vous réveiller.
J'ai de trafiquer son baillement.
C'est l'heure du goûter.
Si, vous avez trafiqué pour faire croire que c'était à la fois inspirant.
Oui.
C'est vraiment une imposture terrible, Stéphane. Face à nous, il est venu avec un chou dans la main. Bonjour David Castello-Lopez. Quel est ce chou étrange que vous...
C'est un chou kale.
Un chou kale, le chou des bobos.
Exactement, le chou des bobos. Je l'observais d'ailleurs pendant que vous parliez.
Il a fané.
Pas
il est bien fané.
Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est... Oui, il est un petit peu fané, mais les endroits pas fanés sont vraiment très jolis pour ceux qui sont sur la télé, on peut voir.
On dirait un bonsaï, ça ressemble
un petit peu.
C'est vrai, c'est un côté bonsaï.
Et je vous parlerai des origines du chouquel, donc.
Stéphane, vous me surprenez. Jour après jour, ne mangez jamais votre bonsaï, Stéphane, ça vous réussirez pas. On va parler justement nutrition avec Olivier Pouls. Oui, d'habitude c'est gastronomie, aujourd'hui c'est le milkshake.
Oui, mais je rêve, il me pique ma chronique, il fait le chouquel. Est-ce que David, est-ce que je fais l'enduit de rebouchage ou les noms qui commencent par Z? Non, je ne me permettrai pas de faire
ça. C'est vrai.
Et vous, vous faites le chou, quoi.
Je fais le chou.
Il n'y aura pas de recette.
J'essaye d'être vous. En fait, c'est ça.
Ouais. Et il ne vous reste plus qu'à créer un milkshake au chou kale.
Voilà, pourquoi pas. Mais le milkshake, d'où il vient, tiens.
Enfin Stéphane, vous avez beau ne pas être hypochondriaque, il vous faudra bien un jour accepter de regarder cette maladie rare dont vous souffrez, le syndrome de la loose, qui se manifeste chaque jour vers 5h-10 dans notre quiz Burn to be Alive, pas de traitement encore. Mais tout de suite, découvrons notre premier malade imaginaire, bien sûr. L'histoire de la musique retiendra comme ça quelques grands noms, Amir, André Dassari et Wagner. Heureusement, Stéphane nous brosse le portrait du troisième.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Je sais, Mathieu, que vous faites courir le bruit dans les couloirs d'Europe 1, que je chante comme une casserole, mais disons que
vous le faites courir tout
si
seul.
Je vous fredonne ceci...
Ah oui.
Là, j'imagine que vous avez forcément identifié l'une des œuvres les plus célèbres de Wagner, la Chevauchée des Valkyries.
C'est pas vous qui avez fredonné, vous avez mis la Chevauchée des Valkyries.
C'est ça, oui. Vous savez, vous dites Valkyrie et elles arrivent. Alors d'accord, Richard Wagner peut sans doute remercier Francis Ford Coppola,
oui,
qui en a fait l'une des musiques de films les plus célèbres du cinéma avec l'attaque des hélicoptères dans Apocalypse Now. Mais il n'avait sans doute pas besoin de cela pour passer à la postérité. Richard Wagner est l'un des monstres sacrés de la musique classique et sans doute l'un des plus grands compositeurs d'opéra de tous les temps avec Mozart, Verdi ou Puccini. Lorsqu'il meurt à Venise en 1883 à 70 ans, il est au sommet de sa gloire et de son art. Le festival de Bayreuth, qu'il a créé 6 ans plus tôt, est un désastre financier, certes, mais c'est surtout un triomphe artistique. La dernière touche apportait un héritage hors du commun. 43 œuvres en tout, dont 13 des opéras les plus célèbres du monde, du Vaisseau fantôme à Lohengrin, en passant bien sûr par sa tétralogie, 4 opéras qui composent ensemble l'Anneau des Nibelungen, rien que leur nom nous plonge au fond des âges, droit vers le monde des légendes du Nord, l'Or du Rhin, la Valkyrie, Siegfried, le Crépuscule des Dieux, on fait difficilement plus épique. On ne fait pas plus grandiose non plus. La tétralogie, c'est le sommet de Wagner, la concrétisation de sa grande idée, celle que l'opéra est un rite sacré, l'art de la démesure et d'un engagement total qui se nourrit de la puissance de la mythologie, mais aussi de la danse, de la poésie, des décors démesurés. Bref, pour le dire autrement, Wagner, ça envoie du bois. Mais voilà, derrière le génie aux visions célestes, il y a l'homme. Un homme comme les autres, avec ses petites faiblesses, ses petits tracas. On sait que Beethoven était sourd, que Mozart s'est littéralement tué à la tâche pour achever son requiem. Wagner ne fait pas exception. Derrière l'artiste, il y a aussi un tas de 80 kilos de chair et d'os qui doit composer, c'est le cas de le dire, avec Wagner, avec ses petits soucis de santé, tous ces petits désagréments qui vous pourrissent la vie, inhérents à l'âge le plus souvent. Vous verrez, Mathieu.
Oui,
vous avez beau être un génie en train de créer une œuvre géniale, il faut bien faire avec. Comme disait l'écrivain Romain Rolland, il n'est peut-être pas mauvais de rappeler de temps en temps au public ce qu'une ou deux heures de distraction pour lui représentent d'années de souffrance pour l'artiste. Et c'est vrai, surtout dans le cas de Wagner qui se traîne une des plus belles réputations d'hypocondriaque des 2 derniers siècles. Eh bien, c'est à la fois un peu vrai, mais aussi un peu faux. Wagner avait été un enfant fragile, presque souffreteux. On avait même craint pour sa vie, mais une fois passé les premières années, il a pu profiter d'une constitution plutôt robuste. Mieux encore, Wagner, qui est né en 1813, aura réussi à échapper aux 3 grands fléaux de son siècle, la tuberculose, la syphilis et le choléra. 3 maladies qui avaient tendance à vous envoyer 6 pieds sous terre à plus ou moins long terme. Pas d'accident grave non plus, alors qu'il a pourtant connu quelques épisodes animés dans son existence. En 1849, Wagner a notamment dû s'exiler en France et en Suisse pendant 12 ans, après avoir eu la bonne idée de monter sur les barricades à Dresde pour protester contre les prétentions du roi de Saxe. Il s'en tire sans une égratignure. Pas de blessures graves et pas de maladies mortelles donc, mais toute une collection de petites contrariétés qui vous gâchent la vie, sans jamais la mettre en danger. Ça commence dès sa jeunesse avec des problèmes de peau qui ne sont pas graves, mais qui peuvent être impressionnants. Wagner souffre d'érysipèles sur le visage, une maladie qui se traduit par des éruptions cutanées qui le font régulièrement ressembler à une saucisse de Francfort bien cuite, avec une peau rouge et un visage enflé, ce qui vous gâche rapidement, vous en conviendrez, la vie en société. Avec le temps, Wagner doit vivre avec d'autres petites misères, à commencer par de sérieuses crises hémorroïdaires. Dans les lettres à ses amis, il parle pudiquement de problèmes autour de son Unterleib, autrement dit de son bas-ventre. Mais dans ses journaux intimes, il parle plus franchement de feu au cul, ce qui n'est peut-être pas le terme le plus médical du monde, mais qui a le mérite de décrire assez bien son problème. Wagner a aussi connu des crises de gouttes et quelques migraines terribles. C'était probablement lié au fait qu'il travaillait beaucoup et pas toujours avec une très bonne lumière, peut-être aussi au fait qu'il était astigmate. Ce n'est qu'en 1877 à Londres qu'un ophtalmologue lui prescrira enfin des verres adaptés qu'il passera d'ailleurs son temps à casser dans le feu de la composition au point de les commander par demi-douzaine. Mais le problème qu'il y aura le plus régulièrement pourri l'existence, je suis désolé Mathieu, ce n'est pas très très romantique, c'est la constipation.
Ah, Wagner était constipé.
Oui, oui, je vous vois sourire sous votre masque, mais imaginez un peu. Vous êtes en train de composer des airs de génie, vous êtes au beau milieu du Parsifal ou du Vaisseau fantôme, et voilà, vous tordez de douleur sur votre fauteuil en priant que vos intestins décident enfin de vous laisser tranquille. Cela dit, même si ce genre de petites misères sont affreusement pénibles dans la vie de tous les jours, ce ne sont pas une crise de goutte ou une migraine qui ont fini par avoir la peau, souvent rouge, je vous l'ai dit, de Wagner. Richard Wagner est mort à Venise, comme dirait Visconti, suite à un infarctus qui finit par l'abattre le 13 février 1883, à un moment où il était déjà très affaibli. Mais la racine de cet accident cardiaque, bien malin qui peut le dire, ce qui est sûr, c'est que ses docteurs ne l'ont pas aidé. Alors que leur illustre patient leur répétait depuis bien 15 ans qu'il avait un problème au cœur, ils étaient convaincus que l'essoufflement, les douleurs et les crampes que Wagner décrivait, cette souris qui lui chatouillait le cœur, pour reprendre ses mots, n'étaient rien d'autre que le symptôme du stress d'une vie intense, encore renforcé par des problèmes financiers récurrents, bref, que c'était dans sa tête. À leur décharge, il faut bien avouer que Wagner avait toujours eu tendance à beaucoup s'écouter. Sans être totalement hypochondriaque peut-être, il avait, il est vrai, vite tendance à se montrer anxieux, avec des angoisses et des insomnies qui n'arrangeaient rien. Et puis son mode de vie n'a rien arrangé non plus. Si une légende tenace raconte que Wagner était végétarien, avec tout ce que cela implique, l'idée d'un mode de vie sobre et sain, il n'en est rien. Wagner a bien pris fait et cause pour le végétarisme. Il a sans doute essayé de manger moins de viande à certains moments de sa vie. Il a beaucoup cru à l'hydrothérapie, au régime sans alcool. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne s'est pas franchement tenu à ses principes. Wagner fumait comme un pompier, surtout le cigare. Il aimait le poisson, la viande, le gibier. Il buvait du vin et bien entendu de la bière. Il adorait le champagne et il s'en est jamais beaucoup privé. Il n'était pas franchement un patient facile, plutôt le genre à envoyer bouler des médecins pour lesquels il avait à peu près le même respect que Molière. Non, non seulement Wagner ne respectait pas les prescriptions de ses docteurs, mais il avait tendance à en changer tous les quatre matins, à en consulter plusieurs jusqu'à trouver celui qui lui livrerait le diagnostic qu'il voulait juste entendre. Et quand tout cela ne lui convenait pas, il faisait à sa sauce, quitte à s'inventer des régimes ou des règles diététiques toutes personnelles, en avalant des quantités industrielles de tartines beurrées et des saladiers de harengs fumés, avant de décider soudain de tout arrêter pendant 15 jours pour boire de l'eau minérale en mangeant de la salade. Si je caricature un brin, c'était ça. Bref, Wagner était un génie devant une portée de musique, mais devant la maladie, il était bien, comme vous et moi, un simple patient, avec ses contradictions et ses angoisses.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Richard Wagner, le patient, le malade, parfois imaginaire, parfois bien, bien malade effectivement, nous sommes avec le médecin Pascal Boutelja. Bonjour docteur.
Bonjour.
Bonjour Pascal Boutelja. Vous êtes médecin, praticien et passionné par Wagner et son œuvre. Les deux sujets qui nous réunissent aujourd'hui, ça tombe bien. Et vous avez publié « Bibliographie wagnérienne française » chez Larnatan et « Un patient nommé Wagner » paru aux éditions Symétrie. Alors, imaginons que nous sommes au 19e siècle, que Richard Wagner entre dans votre cabinet pour se livrer au sujet de son hypochondrie. Qu'est-ce que vous lui donneriez comme remède ou comme simple conseil ?
Alors, je redeviens un médecin du 19e siècle, je perds mon savoir actuel, oui. Et du coup, je suis un médecin assez désarmé face à la maladie, parce qu'au 19e siècle, la médecine, effectivement, a que très peu de moyens thérapeutiques. Et on utilise des recettes un petit peu qui sont toutes prêtes, comme au 17e siècle, on utilisait la saignée.
Ça existe encore,
pour soigner la petite vérole que l'occlusion digestive. Et au 19e siècle, eh ben effectivement, on prescrit l'hydrothérapie, des bains, de la viande, du gibier. Et le médecin qui l'a soigné à la fin de sa vie, le docteur Landgraf, à Bayreuth, alors que Wagner souffrait de douleurs coronariennes, lui prescrivait beaucoup de viande et beaucoup de vin mousseux.
C'est
ce qui peut paraître surprenant à l'heure actuelle, effectivement.
Avec les connaissances que nous avons.
Et ce qui est
intéressant, c'est qu'un hypochondriaque, il fait dire à son médecin ce qu'il a envie d'entendre. Et il en consulte plusieurs sans en écouter aucun. Alors, ça, c'est un symptôme aussi de l'hypochondrie.
Oui, alors, il faut quand même bien définir les termes. Parce que l'hypochondrie, d'un point de vue strictement médical et psychiatrique, c'est l'écoute obsessionnelle de son corps et l'interprétation délirante des symptômes que l'on présente. Ça reste quand même une maladie psychiatrique. Actuellement, on parle plutôt d'hypochondrie pour définir des gens qui sont un petit peu, par rapport, inquiets à leur santé, qui cherchent à se rassurer.
Le pire, c'est qu'ils vont immédiatement voir sur Internet.
Voilà.
Et là, on se forge une angoisse.
Et moi, j'aime beaucoup, plutôt que le terme d'hypochondrie, je trouve qu'on devrait créer un nouveau terme médical inspiré du fameux film de Danny Boone, Superchondriaque. C'est-à-dire que ça résume tout à fait le patient très inquiet par ses symptômes, qui cherche à se rassurer en permanence de ne pas avoir une maladie grave, mais qui n'est pas forcément dans la maladie psychiatrique ni dans le délire de ces symptômes.
Super convergent bientôt dans le Petit Robert. Voilà. Ça serait une innovation de 2021.
Et c'est vrai que dans le début du film, la séquence où on googlise en tapant effectivement un symptôme, et plus on avance, et plus on va vers une maladie terrible, une maladie grave.
Je ne sais pas si je parle de mon expérience personnelle, mais j'ai l'impression qu'on est nombreux à faire ça, non ? Enfin, d'aller. Vous, Stéphane, quand vous avez une petite douleur, vous n'allez pas voir sur Doctissimo ou d'autres sites.
J'attends deux jours pour voir si ça passe, et après j'appelle mon médecin.
Voilà.
Et je lui fais confiance.
Voilà un comportement sain, Stéphane.
Non, mais oui, il faut avoir un rapport un peu distant avec son corps aussi. Fait.
Justement, dans sa façon de gérer ou de ne pas gérer justement son hypochondrie, Richard Wagner semble être un patient assez normal. Il est pétri de contradictions un peu comme tout le monde. Hein. Est-ce que vous avez découvert des pathologies spécifiquement wagnériennes ?
Alors, oui, Stéphane le disait à l'instant, c'est vrai que c'est un homme comme les autres, avec des tracas de la vie quotidienne, des petites misères, des petits, ce qu'on appelle la bobologie en médecine courante, qui l'embêtent, des douleurs arthrosiques, des crises de goutte, des douleurs au ventre, des problèmes de constipation, enfin voilà, des choses qui ne sont pas graves en soi, mais qui au quotidien quand même lui gâchent la vie. Et il le dit très bien à un moment, c'est-à-dire qu'il a l'impression d'être toujours malade. Alors, il n'a pas une maladie grave qui va l'emporter, mais effectivement, toujours des petits mots qui lui gâchent la vie, qui le perturbent, qui l'embêtent. Et il dit à un moment, qu'est-ce que ça serait bien si je pouvais être bien portant ? Mais effectivement, il est bien portant, parce qu'il va avoir une santé quand même singulièrement robuste durant toute sa vie.
Mais cela dit, il avait... Je rebondis sur tout ce qu'il raconte. D'abord, il en parlait beaucoup dans ses lettres. Il raconte tout, au fond. Est-ce qu'aujourd'hui, on dirait, j'ai une crise hémorroïdaire? Je pense pas. Enfin, déjà, on n'écrit plus, on n'envoie pas de SMS pour le dire. Mais,
vous m'avez jamais envoyé un SMS de ce type-là,
non,
Stéphane.
Entre son érysipèle, ses hémorroïdes, ses crises de goutte, ses migraines, c'est vrai que, tous ces petits mots ne l'aident pas à se guérir de son hypochondrie.
Oui, Wagner, effectivement, présente en permanence des symptômes, et puis il s'écoute beaucoup, il dissèque ses symptômes. C'est vraiment une caractéristique. Alors, Wagner était un grand épistolier. Il écrivait au moins une dizaine de lettres par jour à des correspondants divers. Et dans chacune de ces lettres, effectivement, il a besoin de s'épancher, de raconter quand il se sent pas bien, mal dans sa peau, il a besoin d'écrire qu'il n'est pas bien. Je pense que c'est une façon de se réassurer, de se réconforter.
L'érysipèle, ça vient de quoi ?
L'érysipèle, c'est une maladie bactérienne, donc il y a une bactérie qui se met dans la peau, qui crée un phénomène d'inflammation, ça fait une sorte de plaquaire tout rouge, très douloureux, qui gratte.
C'est la saucisse de Francfort, ça, Stéphane ?
Voilà, c'est ça. Donc à l'heure actuelle, c'est plutôt au niveau des jambes, il y a des insuffisances veineuses, mais à l'époque, c'était au niveau du visage. L'érysipèle du visage était très important. Donc c'était un Wagner qui avait une tête toute rouge, tout en fait, boursouflée, qu'il grattait, c'était très inesthétique, ça durait plusieurs jours, plusieurs semaines, ça s'apaisait, puis avec de la fièvre, etc. Puis ça allait mieux, ça recommençait. Et en mai 56, quand il compose La Valkyrie, il a quasiment près de 10 crises pendant quelques mois. Donc vous imaginez le pauvre Wagner en train de composer sa Valkyrie et d'être dans cet état. C'est vrai que c'est pas possible.
Alors, en vous appuyant sur ses correspondances, vous affirmez que Richard Wagner passait son temps à disséquer ses symptômes, un peu comme quelqu'un aujourd'hui qui passe sa vie, on en parlait tout à l'heure, sur des sites comme Doctissimo. Comment on lutte contre ça ? Est-ce que vous avez une solution ? Qu'est-ce que vous dites aux patients qui sont comme ça ?
Alors, je crois que surtout, ces patients sont souvent des gens qui ont des maux quand même relativement bénins et qui cherchent surtout à se réassurer dans la recherche de l'absence de maladies graves. Je crois que on a une douleur dans la poitrine, on a peur de faire un infarctus, et on tape un petit peu les symptômes qui pourraient correspondre.
Et on les trouve.
Et on les trouve forcément, parce qu'effectivement, à l'heure actuelle, en médecine, on pêche beaucoup plus par excès que par défaut. On a toujours peur de passer à côté de quelque chose, et effectivement, n'importe quel individu, n'importe quel patient qui se présente avec des symptômes graves aura une batterie d'examens pour faire un diagnostic. Alors après, c'est négatif, c'est positif, peu importe. Mais c'est vrai que le patient qui, lui, n'a pas tout ça à sa disposition ne peut compter que sur le savoir du médecin. Et le médecin, il a quand même ce qu'on appelle un peu de bouteille. C'est-à-dire, il a de l'expérience. Il sait un petit peu repérer il y a des maladies, c'est des syndromes. C'est un ensemble de symptômes. On fait un diagnostic, on a une démarche diagnostique qui peut dire que, vous avez un infarctus. Non, vous avez une tendinite du bras. Vous avez une douleur de paroi, de
thoracique. Oui, mais même malgré les faits, comme il peut toujours y avoir de nouvelles douleurs, on a l'impression qu'on ne peut pas guérir de l'hypochondrie. On a l'impression que quand on est hypochondriaque, c'est un problème psychologique.
Je pense que c'est un trait de caractère, c'est un trait de personnalité. Il y a des gens, effectivement, qui sont inquiets par leurs symptômes, d'autres qui le sont moins, mais c'est un trait de caractère, c'est un trait de personnalité.
Ça ne protège pas contre la maladie.
Ça ne protège pas contre la maladie.
Parce qu'il y a des gens qui ont fait tellement attention toute leur vie, etc.
Et là, justement, c'est le cas très classique en médecine, où on a de grands hypochondriaques qu'on voit pour la 10e fois parce qu'ils ont une douleur dans la poitrine, et la 11e fois, on leur dit « non, c'est rien », et ils font l'infarctus.
Et oui.
Ça, c'est très classique. Et d'ailleurs, même les gens aussi qui sont comme ça, hypochondriaques, entre guillemets, qui ont toujours ces petites bobologies qui les embêtent, la plupart du temps, parce que malheureusement, ils font des maladies graves et sérieuses, et bien, quand ils sont dans leur maladie, paradoxalement, c'est des gens qui vont mieux parce qu'ils se soignent, ils sont dans leur maladie, ils sont dans leurs soins, on s'occupe d'eux. Alors, et quand tout évolue bien, bah, effectivement, tous les petits symptômes qui étaient là, présents au jour le jour, bah, effectivement, disparaissent cessamment. Et ils sont dans leur maladie, en train de faire leurs soins. C'est ce qu'on appelle en psychiatrie voilà, les bénéfices secondaires de la maladie.
Ah oui. Est-ce que justement, vous pensez, dans le cas de Richard Wagner, que ça l'a aidé, ces petits bobos du quotidien, à se surpasser lui-même artistiquement? Et qu'au fond, s'il a laissé une œuvre aussi monumentale, c'est peut-être parce qu'il avait envie de donner un souffle à son travail
Alors, Wagner, par moments, dit clairement, a très bien conscience de ses problèmes de nervosité, de l'origine psychosomatique de la plupart de ses maux. Ça, il le dit clairement. Et il dit même à un moment que c'est plutôt positif pour lui, parce que cette hypersensibilité lui permet d'être, je le cite lui-même, d'être l'artiste créateur aussi sensible qu'il est. Voilà, c'est-à-dire que ça lui confère presque une puissance. Mais c'est vrai qu'il, malgré toutes ces maladies, ces beaux, ça n'a jamais entaché sa création artistique. Il est toujours parvenu, effectivement, à créer de A à Z durant toute sa vie sans que la maladie puisse intervenir sur ses facultés créatrices.
En tout cas, les maladies de Wagner, son végétarisme douteux, on en a parlé, son hypochondrie, lui donne un visage humain. Tout ça n'excuse pas les zones d'ombre du personnage, ses prises de position, notamment son antisémitisme. Là, c'est bien sûr plus au médecin auquel je m'adresse, mais comment vous traitez cette partie-là, cette dimension-là de Wagner ?
Alors, c'est vrai que l'histoire a regardé Wagner tour à tour, hein, comme un furieux révolutionnaire, comme un poète visionnaire, comme un prophète de la modernité, ou effectivement, malheureusement, comme un petit peu pas l'initiateur, mais disons, voilà, il a écrit des écrits antisémites, et effectivement, c'est un petit peu le petit caillou dans la chaussure des Wagneriens, parce qu'on aurait préféré, effectivement, qu'il n'écrive pas le judaïsme dans la musique, ou alors même sa farce qui s'intitule Une capitulation, écrite au lendemain de la guerre 1870, et qui lui a donné, effectivement, le surnom d'insulteur de la France. Mais par rapport à Wagner, j'aime bien citer cette phrase de Proust qui a une question dans un de ses premiers questionnaires où on lui demandait pour quelle faute avait le plus de tolérance. Et il disait la vie privée des génies. Voilà.
Une chose est sûre, et là c'est unanime, c'est que sa musique est géniale absolument et que d'ailleurs la musique soigne. Et il paraît qu'elle a des vertus thérapeutiques, la musique de Wagner. Sur vous, par exemple, est-ce que vous la prescrivez en cure à vos patients ?
Alors, est-ce que ça soigne ? Je ne sais pas, mais en tous les cas, les gens qui aiment effectivement cette musique se sentent bien, se sentent bien avec.
Un petit footing sur la chevauchée des Valkyries, je peux vous dire que vous gagnez quelques secondes au kilomètre.
Hein. Je pense aussi. En tout cas, merci beaucoup, Pascal Boutelja. Je rappelle le titre de votre livre, Un patient nommé Wagner, paru aux éditions Symétrie. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours, dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires, des vertes et des pas mûres. Hein. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, justement, verte, mûre, fleur, vous ne parlez pas des jeunes filles, mais bien des jardins. Les jardins de nos rois, d'ailleurs. Vous vous êtes baladée dans les allées des fleurs royales.
Des jardins historiques, car voyez-vous, Clovis aimait les fleurs, certes, mais c'est son fils Childebert qui en planta partout autour du palais des Thermes avec son épouse Ultrogoth. Elle partageait sa passion du jardinage et il greffait lui-même ses roses. Deux siècles après lui, Charlemagne exigeait dans ses capitulaires d'avoir en abondance dans les jardins de ses palais des lys, des roses, de la sauge, du romarin et des pavots. Hugues Capet, le premier des rois de France, il possédait deux grands jardins à Paris, dont l'un dans l'île aux Treilles. Un grand jardin qui se trouvera aujourd'hui du côté du Pont Neuf, on a du mal à imaginer ça. Lui et ses successeurs, Philippe-Auguste, Charles V, avaient ces immenses jardins au même endroit. Et c'est ce qui nous a donné des noms de rues comme Beautreillis, rue de la Cerisaie, il y a même une petite rue du Pont aux Choux. Puis du côté, là où se trouve aujourd'hui l'Opéra, il y avait des plantations d'artichauts, figurez-vous. Bon, enfin, c'est sous François Ier que l'on commence à se piquer, de dénicher les fleurs les plus rares. Et c'est sous François Ier qu'apparaissent les premiers parterres découpés. Vous savez, cet ornement végétal si particulier qu'on nommera bientôt les boulingrins. Ouais. Oh, c'est peu dire que de nos rois qu'ils chouchoutèrent leurs jardiniers. Dans une ordonnance de 1576, Henri III les appelle ses bien-aimés maîtres jardiniers de la bonne ville de Paris. Et le nôtre, le célèbre le nôtre qui fera ses premières armes sur le jardin des Tuileries, eh bien, il recevra de Louis XIV le collier de l'ordre de Saint-Michel, l'une des plus hautes distinctions de l'époque pour avoir brillamment assujetti la nature. Hein, c'est beau, hein. Et ce même Louis XIV, d'ailleurs, dont la mère Anne d'Autriche ne pouvait supporter ni la vue ni le parfum d'une rose, lui n'aimait que les massifs alambiqués et les fleurs violemment parfumées comme les tubéreuses ou les jonquilles. Il exigeait que chaque pièce fût agrémentée d'orangers. À l'époque, les serres de Trianon abritaient 900 000 pots de fleurs dont on décorait les parterres à la belle saison et que l'on changeait, dit-on, trois fois par jour. Vous imaginez ça? Selon l'heure du jour à laquelle vous vous baladiez dans Versailles, les couleurs et les massifs avaient changé du tout au tout. Ça devait être tellement merveilleux.
Ça devait être super. Tout ça avec l'argent du peuple.
Non, faut pas exagérer. Mais en tout cas, il fallait que ça sente bon pour couvrir l'odeur des courtisans.
Oui et non. Alors oui non, parce que c'était plutôt les orangers à l'intérieur, parce que les fleurs ne sont pas à l'intérieur, elles sont à l'extérieur. Il faut attendre le règne de Louis XVI pour voir figurer dans les contes du roi cette mention très touchante qui revient d'ailleurs rarement. Un bouquet pour la reine. 3 francs. Un bouquet modeste pour une reine champêtre dans ses goûts. Marie-Antoinette adorait par-dessus tout les œillets et les juliennes. Et ce fut sans doute à ces fleurs qu'elle dut les dernières sensations agréables de son existence. À la conciergerie, sa gardienne, Madame Richard, essaiera de lui en apporter tous les jours et elle sera punie pour ça. Avec la mort de Louis XVI et de son épouse, prendra fin, bien sûr, le règne d'Ulysse, bientôt supplanté par celui de la violette impériale. Mais la République dans tout ça. Que reste-t-il de ce lien entre pouvoir et nature? Eh bien, dans le plus grand jardin privé de la capitale, celui de l'hôtel Matignon, on peut admirer les arbres des premiers ministres depuis 1978. Vous saviez ça, Mathieu?
Oui, chacun planté leur arbre.
Depuis Raymond Barre.
6 mois après leur arrivée au pouvoir.
Exactement.
Jour pour jour.
C'est Raymond Barre qui a inauguré cette tradition et lui avait planté, d'ailleurs c'est amusant de voir la correspondance entre le premier ministre, l'homme et l'arbre qu'il choisit. Raymond Barre avait choisi un érable à sucre. Pierre Mauroy, un chêne de Hongrie. Laurent Fabius, un chêne du Marais. Michel Rocard avait choisi un copalme d'Amérique, tandis qu'Édith Cresson, ça c'est amusant, Édith Cresson, dont le nom même constituait déjà un hommage à la botanique, elle avait jeté son dévolu sur le ginkgo biloba, plus connu sous le nom d'arbre aux 40 écus. Histoire
bon
sans doute de placer nos finances publiques sous d'heureux auspices. Pierre Bérégovoy, tulipier de Virginie. Édouard Balladur a choisi un érable argenté, ce qui va bien avec cette espèce de monsieur distingué à la crinière blanchissante. Alors à cette liste déjà longue, il conviendrait d'ajouter évidemment, alors là, devinez les garçons, le cercidiphyllum. Quel est celui de nos premiers ministres qui a pu trouver un truc pour quoi faire simple quand on peut faire très compliqué?
Ça c'est Villepin.
Ça aurait pu, c'était Alain Juppé, en fait, le cercidiphyllum. L'orme de Lutèce, Lionel Jospin. Le parossia persica, qu'on appelle aussi l'arbre de fer. C'est un arbre dont le bois est très très dur et qui est un symbole de longévité. Eh bien ça, c'est Jean-Pierre Raffarin qui a choisi ça. Et pour finir en beauté, le chêne pédonculé de Dominique de Villepin et le cornouiller des pagodes de François Fillon.
Dites-moi une chose, Clémentine, la monarchie avait le lys, l'empire avait la violette, et la République n'a pas de fleurs associées.
Et c'est vrai, c'est pourtant vrai. C'est un petit
encore
peu dommage.
Encore une mission pour Monsieur Patrimoine.
Le coq, Marianne, les faisceaux romains,
mais
c'est,
y a pas de
dans
fleurs.
Nos emblèmes, non. Y a pas, je, crois pas que nous, je ne sache pas que nous ayons une fleur.
Ouais. Merci en tout
ça
cas.
Ça nous manque beaucoup. Un coquelicot, on pourrait choisir.
Mmh. Oui, ou le bleuet.
Le bleuet
de France.
Ouais. Beaucoup d'idées dans ce brainstorm sur les fleurs qui pourraient être liées à la République française. Merci Clémentine, vous restez avec nous. Stéphane, je me suis laissé dire que ces derniers temps, vous vous ennuyez copieusement.
Je parraine un peu de 3 activités de la garde républicaine.
Voilà, c'est ce que je dis. Donc je vous propose d'égayer un peu ce morne quotidien avec un bon vieux quiz d'histoire. À tout de suite.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Moi qui pensais Stéphane Bern si moderne, si respectueux des femmes, j'avoue que je suis choqué quand, hors antenne, ruminant une énième défaite contre Clémentine Portier-Kaltenbach, il la décrit comme, je cite,
« la chatte la plus chanceuse de l'histoire ».
La chance n'a rien à voir là-dedans, seule la culture compte quand nous jouons à « Bern to be alive ». Notre célèbre quiz, Stéphane, la première question est pour vous et partons immédiatement au cœur de votre métier, Stéphane, l'humour. Souvenons-nous, Fernand Reynaud, on a tous en mémoire, Tonton, pourquoi tu tousses, mais aussi Evelyn, passe-moi l'éponge, sans oublier, c'est étudié pour. Mais ce brave Fernand a-t-il vécu suffisamment pour voir à la télé le premier spot de pub ?
Bah oui, oui, évidemment.
Évidemment, et votre réponse. C'est même pas oui, oui ou non, c'est évidemment.
Oui, ne serait-ce que la bol de Florine, la bol de Florine. Ou alors les petits pois, on a toujours besoin de petits. C'est des pubs des années 60, ça. Quand est-ce qu'il est mort, Fernand Reynaud ?
Il est mort à la fin dans les années 60.
Je vous donne un indice, Fernand Reynaud est mort très jeune.
Mais oui, il est mort très jeune. Mais il est peut-être mort pile poil avant.
Est-ce qu'il serait mort dans les années 60.
Tu es sûr de ça ? Est-ce qu'il serait pas mort entre 50 et 60 ?
Non, je crois.
Parce que nous, on le voyait petit à la télé, mais est-ce qu'il n'était pas déjà mort à ce moment-là ? Quand on était nous petits, c'était toutes ces pubs.
Il y avait de la pub. Il y avait de la pub. J'avais pas de télé. Donc
mais oui, il y avait de la pub.
Bien sûr,
il y avait de la pub.
Alors oui.
Vous restez sur votre première réponse ?
Oui, je reste sur ma première. Tant pis pour vous.
Vous avez.
Bien joué, Stéphane.
Alors que vous avez vu le piège que vous m'avez tendu.
Oui, je vous ai tendu un piège. J'essaie juste de vous faire parler un peu, de vous faire réfléchir à haute voix. Fernand nous a quittés très jeune, je le disais, en 1973, à 47 ans, d'un accident de voiture. C'est un peu notre James Dean à nous. Le premier spot de pub arrive, lui, le 1er octobre 1968, et ça sera pour vanter les mérites de Régilet, suivi de près par Boursin, qui sera la deuxième pub diffusée.
Du vin. Du Boursin.
Ah bah visiblement, vous étiez là, en 1968, devant ce poste de télévision.
Régilet.
Léger, petit déjeuner.
Ah, c'est tout notre enfant.
C'est là que je sens quand même le choc des générations. Oui, oui. Je le sens pas trop.
Avant, on savait rire.
Je vois, entre Fernand Reynaud et... Oui, remarquez, j'ai eu Michel Leb. Question numéro 2. Clémentine, c'est pour vous.
Alors... Je croyais que tu n'avais pas la télé, menteur.
Il a tout vu, il n'avait pas la télé, mais il connaissait par cœur la pub Régilet. Question numéro 2, Clémentine. En France, entre 1954 et 1962, ce qui se passe en Algérie est qualifié d'opération de maintien de l'ordre. Il n'y a donc pas eu officiellement de guerre d'Algérie. C'était donc impossible de décerner aux militaires la croix de guerre. À la place, on invente la croix de la valeur militaire. D'ailleurs, Messrine l'a eu. Vrai ou faux ?
Alors je pense, pour moi elle s'appelait la Comémo, la médaille des événements algériens. Et je pense que Messrine était tout à fait en âge de faire partie du contingent de la guerre d'Algérie. Oui, donc je pense que c'est vrai, oui.
Vous pensez que c'est vrai ? C'est votre réponse ?
Vous avez...
C'est parfaitement vrai. Messrine a eu cette croix de la valeur militaire en tant que soldat deuxième classe. Jacques Chirac l'a eu également, ainsi que Jean-Marie Le Pen. Ainsi que votre père. Quoi ? Sacrée promotion. Question numéro 3, pour vous Stéphane. Alors attention Stéphane, c'est une question qui me parle personnellement, puisque ça se passe à côté de chez moi en Normandie, à Falaise. En 1386, on se souvient tous du procès de la truie. Vous vous en souvenez, Stéphane, il y a eu un procès, car elle avait mangé le bras d'un nourrisson qui n'avait d'ailleurs pas survécu. Condamnée à la pendaison, on a mis à la truie des habits de femme juste avant de la pendre. Est-ce que c'est vrai ou ce sont mes fantasmes les plus étranges qui s'expriment à travers cette question ?
Alors, on l'a pendue, oui. Est-ce qu'on a pu l'habiller en femme ?
Pourquoi l'avoir habillée en femme ?
Est-ce que c'est pour lui donner une forme de nature humaine, ayant été condamnée par la justice des hommes, et on aurait voulu la grimer en... Ça, c'est pas facile parce que c'est tout à fait possible.
C'est possible, c'est plausible, mais...
On aurait déguisé le cochon en femme pour le pendre.
Oui, oui. N'utilisez pas les conditionnels. Bien sûr qu'on a pu faire une chose pareille. Oui, c'est peut-être pas avec ce cochon de falaise.
On a tué des gens pour moins que ça. Hein. Alors, non, je dirais non parce que franchement...
Donc vous répondez non à la question. Elle n'a pas été le cochon, n'a pas été travesti.
Moi, je pense qu'on a pu travestir.
Non, mais vous pensez, mais c'est pas votre question. C'est pas votre question, Clémentine.
On a pu, mais on l'a pas fait.
Oui, donc la réponse est
non.
Vous avez perdu.
Vous avez perdu, Stéphane. On a effectivement donc mis des habits de femme à cette pauvre truie, enfin cette pauvre truie qui avait quand même arraché le bras d'un nourrisson.
Oui, mais
et on a demandé également aux paysans de la région d'amener leurs cochons pour qu'ils assistent à l'exécution, histoire qu'ils comprennent bien ce à quoi ils pouvaient être condamnés, ce qui est vachement intelligent. Stéphane, comme je suis particulièrement, j'ai de très bonne humeur aujourd'hui, je vais vous offrir l'opportunité de marquer un point quand même sur cette question, Stéphane, de vous rattraper. Qu'est-ce qu'il y a à Falaise ? Quel est le le château.
Il y a
peut
un
voir.
Château, bien sûr.
Mais de qui est ce château? C'est la question que je pose.
Les ducs de Normandie.
Guillaume le Conquérant.
Oui.
Bien, bonne réponse. Un point pour Stéphane. Question numéro 4. Pour vous, Clémentine, portée Kaltenbach. Partons dans la ville de la Bouteille, dans l'Aisne. C'est ici qu'on pouvait trouver l'abbaye cistercienne de Foigny, fondée par Bernard de Clairvaux en juillet 1121. Si l'on en croit les vitraux qui racontent l'inauguration de l'abbaye, la veille, l'édifice a été envahi de mouches. Saint Bernard a excommunié les mouches. Le lendemain, elles étaient mortes au sol. Vrai ou faux ?
Alors là, écoutez, ça c'est un exercice de foi. Selon que vous pensez que tous les martyrs chrétiens sont devenus des saints et ils sont capables de guérir les maladies, de ressusciter, d'accomplir de différents miracles. Pourquoi, je veux dire, chasser les mouches, c'est service minimum hein, pour un saint homme, semble-t-il. Un saint insecticide, en gros.
Insecticide ! Insecticide, le jeu de mots est fabuleux.
Vous avez gagné !
Et c'est justifié, c'est une bonne réponse. C'est vrai, le vitrail est visible à l'abbaye de Shrewsbury, en Angleterre, tout près du Pays de Galles. Stéphane, vous n'avez pas visité cette abbaye, visiblement. Vous ne connaissez pas l'insecticide. Non. De partout, le score est parfait, grâce à ma petite manip sur la question du château de Guillaume le Conquérant. On a eu chaud qu'ils le connaissent. Question numéro 5, elle est pour tous les deux. Évidemment, c'est une question de rapidité. On écoute les propositions. Il y a 40 ans, quasiment jour pour jour, commençaient les travaux du Palais Omnisports de Paris-Bercy, que l'on connaît sous le nom aujourd'hui de l'Accor Arena. L'artiste masculin qui a le record de concerts dans cette salle est Johnny, avec 93 performances. Mais qui est l'artiste féminin qui a donné le plus de concerts ? Trois possibilités. Mylène Farmer, Dorothée ou Janet Jackson ?
Dorothée.
Aujourd'hui, le quiz nous a permis de découvrir qui avait les meilleures compétences, non pas en histoire, mais en musicologie, en histoire de la musique, et je crois que le plus grand mélomane du jour, c'est Stéphane Bern, qui allô, connaît allô, par cœur,
monsieur l'ordinateur. Dites-moi, où est passé mon cœur ?
Je vous appelle. Ça, moi, j'en connais aucune, personnellement.
C'est mon enfance, et je peux vous dire que ça, c'est beaucoup de souvenirs qui remontent à la surface. Vous, Stéphane, vous étiez déjà
c'est
trop grand pour regarder Dorothée.
Oui, je ne regardais pas, je vous assure.
Ne regardez pas. C'était excellent quand même. Ouais. Quand on écoute.
Alors, combien a-t-elle fait de concerts ?
Elle en a fait 59.
Ah oui.
59 concerts.
Et Mylène Farmer,
13 fois d'affilée.
Ah oui.
Battue par Dorothée aussi, qui l'a fait 16 fois d'affilée. On était en 96. Et rendez-vous compte, certains jours, elle y jouait 3 fois de suite, dans la même journée.
Pour chanter ce genre de truc-là.
Maintenant, elle a le temps de se reposer. Gloire à Dorothée. Bravo, Stéphane.
Merci. Merci beaucoup. Merci à tous.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter, en compagnie d'un passionné qui, à chaque numéro de Secret d'Histoire, se fait faire un double des clés du château qu'il nous fait visiter. Ça lui fait 789 résidences secondaires et zéro taxe foncière. Il est fort, non, Stéphane Bern.
Vous êtes malade.
Possible.
Comme nos personnages du jour, d'ailleurs, qui se croient malades, Mathieu. Bon, et qu'il était un peu aussi. On évoque les grands hypochondriaques de l'histoire. Après Richard Wagner, je vous raconte le destin d'un milliardaire qui a passé sa vie à avoir peur de la perdre. C'était le Magna Howard Hughes. Quant à vous, Mathieu, vous faites partie de ces gens qui ne peuvent pas tout miser sur leur physique.
J'en connais d'autres, mais on se débrouille, comme mon personnage du jour, l'inoubliable Jean-Claude Duss, débronzé, qui croyait toujours qu'il allait conclure alors que non. Figurez-vous que Michel Blanc est un grand hypochondriaque. Il se dit que sur un malentendu, il peut décéder. Eux non plus, Stéphane, regardez-les, ne peuvent pas tout miser sur leur physique.
Oula, non.
David Castello-Lopez, vous nous racontez les origines d'une invention, d'un objet, d'une pratique, aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est le shoe-kale.
Aujourd'hui, vous piquez le sujet de votre
exactement,
collègue, Olivier
c'est
Pouls.
C'est les plates-bandes d'Olivier Pouls. Mais quand même, il y a une histoire assez intéressante du shoe-kale, et surtout cette explosion du shoe-kale récente.
Je crois que vous avez, en la personne de Stéphane, un grand
amateur de shoe-kale. Oui.
Je suis sûr que vous ne savez même pas le cuisiner. Vous allez nous parler du produit comme ça, mais...
On pourrait faire comme ça des chroniques combinées.
Il faudrait qu'ensuite, moi, j'enchaîne sur une recette de
bon.
Shoe-kale.
Ouais. Vous pouvez le mettre à l'eau, à la vapeur.
Mais en milkshake, c'est pas terrible.
Non.
Olivier,
vous nous parlez
de milkshake.
Oui, puis du vrai, du régressif, vous savez.
Ah oui, celui à la fraise ou à la banane.
Avec plein de calories.
Super. Avoir des cornes, voilà une expression étonnante quand on y réfléchit. C'est celle que vous allez décrypter pour nous dans le mot de la fin, Stéphane.
Ça vous parle Pourquoi quand on est trompé par sa femme, ou par son mari d'ailleurs, On dit qu'on est... Il est 17h sur Europe 1. Des cornes.
Elle a des cornes. Oui,
elle a des cornes.
Vous me fichez un doute, là. Je vais me renseigner. Tout de suite, découvrons notre deuxième grand hypochondriaque de l'histoire. Milliardaire, aviateur, playboy, mais très, très angoissé. Stéphane Bern nous raconte Howard Hughes.
Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Né au tout début des années 1900 à Houston, Texas, Howard Hughes était pourtant bien parti dans la vie en héritant à seulement 19 ans de l'entreprise paternelle en plein boom. Mais attention à ne pas voir en lui qu'un enfant gâté, un simple héritier plein aux as. Howard est un homme à femme, un très bel homme d'ailleurs, mais c'est aussi un homme d'affaires affûté, un ingénieur de premier ordre, pas le genre à faire dans le sentiment. Les coups de poker, oui, les projets industriels un peu fous, pourquoi pas, mais jamais au point de mettre vraiment son empire en danger. Ce qui transparaît en revanche immédiatement, c'est le caractère obsessionnel de Howard Hughes. Il a ses idées fixes, le goût des records, de l'aviation, du cinéma, autant d'obsessions qu'il va constamment mélanger. Fou d'avion, il multiplie les records de vitesse. En 1938, il boucle un tour du monde en 3 jours, 19h17, en s'amusant, au passage, à survoler l'Allemagne nazie sans se préoccuper une seconde des vociférations d'Adolf Hitler qui le lui avait défendu. Il imagine des modèles de légende comme le Constellation, la star des avions de ligne des années 50. Et puis, il y a ce rêve éveillé, le H4 Hercule, l'un des plus grands avions jamais construits, un mastodonte qui volera en tout et pour tout 60 secondes. En 1948, Howard Hughes s'offre l'un des plus grands studios d'Hollywood, la RKO. À la caméra ou à la production, on lui doit des chefs-d'œuvre comme La Captive aux yeux clairs, Scarface ou Les Anges de l'Enfer. Des tournages à chaque fois un peu fous où l'argent ne compte plus, où on casse les plannings de tournage jusqu'à ce que la couleur du ciel soit exactement celle que Hughes avait dans la tête. Et puis il y a les femmes, enfin... les étoiles, parce qu'on n'en finirait pas de dresser la liste de ses aventures avec les stars d'Hollywood. Ava Gardner, Katharine Hepburn, Bette Davis, John Crawford, Marilyn Monroe. Des relations pas toujours très saines d'ailleurs. Howard est un amant jaloux qui installe ses maîtresses dans de véritables cages dorées pour mieux les surveiller. Et puis voilà qu'au début des années 50, quelque chose se brise doucement. Comme... si toutes les fissures qu'on devinait commençaient à s'ouvrir. L'homme qui était hier encore le nabab le plus visible d'Hollywood, l'homme qui prenait toute la lumière, commence à reculer dans l'ombre, au sens littéral de l'expression. Dès le début des années 50, on le voit moins, puis plus du tout. Hughes commence à vivre reclus dans sa grande villa de Los Angeles ou dans l'une des chambres d'hôtel qu'il ne quitte que pour se réfugier dans un autre palace. En 1958, il s'enferme dans sa salle de projection personnelle et refuse tout bonnement d'en sortir. Pendant 4 mois, Hughes vit dans le noir. Il regarde des films en boucle et se nourrit en buvant du lait et en grignotant des ailes de poulet et des barres chocolatées. Son entourage a défense absolue de lui parler parce que Hughes commence à développer une phobie. Une vraie. Il est obsédé à l'idée d'attraper des microbes ou des germes. Tout se sait en Amérique. Certains commencent à murmurer que Hughes est devenu dingue et à le surnommer le fantôme. Cloîtré chez lui, reclus, le brillant homme d'affaires qu'il est s'enfonce dans une folie d'autant plus effrayante qu'il reste lucide sur bien des plans, et notamment les affaires, avec quelques coups fumants du côté de Las Vegas où il se paye le luxe de s'offrir plusieurs casinos au nez et à la barbe de la mafia. Mais alors, où et quand cette dérive a-t-elle commencé? Difficile à dire, un héritage familial peut-être, mais pas financier celui-là. Avec une mère qui souffrait elle aussi de troubles maniaques. Il y a la drogue également. Dans sa vie de pilote, Howard Hughes a connu sa part de crash et le plus grave, en 1946, a laissé des traces. Depuis lors, il souffre de douleurs insupportables à la tête, au dos et aux jambes. Pour se soulager, il enchaîne les injections de morphine et de codéine à des doses toujours plus élevées. Il y a peut-être enfin les restes d'une syphilis mal soignée, la bonne vieille ch'touille, Mathieu, une maladie vénérienne qui finit par toucher le cerveau.
Je ne sais pas, j'ai jamais expérimenté.
Mais quelles qu'en soient les raisons, la vie de Howard Hughes n'est plus qu'une longue descente aux enfers. De Boston à Las Vegas, de Newport à Beverly Hills, toujours aussi obsédé par les germes, il ne sort de ses propres avions que pour monter dans sa Chrysler de luxe, équipé d'un système de filtre à air qui prend tout le coffre et pour cause, il a été initialement conçu pour des avions de ligne. Dans les années 60, Howard Hughes vieillit et la maladie le rend agressif. Ses sautes d'humeur, ses éclats de violence terrifient son personnel. Sa peau est devenue ultra sensible au point qu'il ne supporte plus d'être touché. Alors, il passe le plus clair de sa sombre existence dans le noir, justement nu, allongé dans une baignoire vide, à baigner dans la crasse la plus infecte, seul avec ses terreurs et ses manies compulsives. Il cesse de se laver, allant ainsi encore un peu plus nourrir sa propre phobie, celle de la saleté. Hughes s'occupe en gérant ses affaires par téléphone, en regardant 100 fois les mêmes films et en avalant des litres de crème glacée et parfois un steak avec des petits pois. 18 petits pois exactement, tous calibrés pour avoir exactement la même taille. Au printemps 1976, Howard Hughes est mourant, ses reins sont en train de lâcher. On l'installe dans un avion qui décolle d'Acapulco pour le rapatrier là où il est né, au Texas. Lui qui avait tant aimé l'aviation meurt en plein vol à 13h27, le 5 avril 1976. À l'arrivée, c'est le FBI qui l'attend sur le tarmac. Après des années de rumeurs, les fédéraux tiennent à authentifier son décès. Mais le corps de Hughes est tellement ravagé que ce ne sera pas si simple. Lui qui faisait 1m93 ne pèse plus que 41 kilos à sa mort. Ses ongles sont longs de plusieurs dizaines de centimètres. Ses cheveux et sa barbe n'ont pas été coupés depuis des années. Il faudra que le FBI relève les empreintes digitales du cadavre pour avoir la certitude que ce corps dévasté est bien celui de Howard Hughes, l'homme qui était passé de la lumière à la nuit noire.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Howard Hughes, nous sommes avec le journaliste et écrivain François Forestier qui lui a consacré un livre entier. Bonjour François.
Bonjour.
Oui, François Forestier, vous êtes journaliste, écrivain, vous êtes l'auteur de Howard Hughes, L'homme au secret, une biographie parue chez Michel Lafon. Cet homme est, il faut bien le dire, totalement déroutant. Il y a la face A, la face B. Est-ce que vous avez réussi, en vous penchant sur sa vie, à recoller les morceaux et à lui trouver une consistance, à percer ses secrets, ou il reste même pour vous une énigme ?
Il reste une énigme, bien évidemment. On arrive à survoler sa vie, à comprendre certains mécanismes, mais enfin, un type qui était milliardaire au départ, qui était beau gosse, qui avait tous les succès, qui voulait être cinéaste, qui voulait être le plus grand aviateur du monde, et qui devient ce reclus à la fin, qui pèse 40 kilos, et qui est absolument abandonné, si j'ose dire. C'est vraiment une destinée très étonnante et totalement tragique, bien entendu.
Mais est-ce que le Howard Hughes de la fin, celui qui se laisse complètement aller, qui vit reclus, il est en germe dans le premier Howard Hughes ou pas du tout ? On a l'impression d'avoir affaire à deux hommes différents. C'est vraiment étonnant.
Il a commencé à avoir des manifestations de bizarrerie assez tôt quand même. Je vous donne un exemple. Il a voulu faire un film qui s'appelle Les Anges de l'Enfer, Hell's Angels, qui était en 1927 le plus grand film sur l'aviation, etc. Donc il a mis en scène. Et puis, petit à petit, les scènes ne lui plaisaient pas, d'autant plus que le cinéma, à cette époque-là, passait au parlant. Il avait tourné en muet. Donc, il a fait retourner des scènes. Ça a duré un an, quand même. Chaque scène était retournée 100 fois. Donc c'est quand même... Et elle se ressemblait toujours. Je veux dire, personne ne comprenait pourquoi il voulait retourner cette scène. Enfin, il voulait rester sur le plateau. Ça l'amusait. De plus, c'est un homme qui, de plus en plus... Et très tôt, a voulu vivre dans un espèce de secret. À partir de l'âge de 30 ans, il a commencé à sortir que la nuit, uniquement en voiture, allant de bistrot en restaurant. Enfin, il voyait des gens, bien entendu, mais de moins en moins quand même. Et son comportement a été bizarre très tôt. Il y a eu un basculement, évidemment, à partir de 1946.
Oui, alors, c'est le basculement, justement. On a l'impression que c'est comme un train qui subitement déraille après un grave accident d'avion. Ce basculement, c'est cet accident d'avion où vous pensez qu'il avait la maladie mentale qu'il a...
Comment dire, consumée.
L'a consumée. Elle date de bien avant et peut-être même elle est héréditaire avec cet atavisme maternel.
Absolument. Il était terrifié par les microbes. Ça, c'est une phobie que sa mère lui avait transmise. Elle le lavait tous les jours, enfin, quand il était bébé. Et il a été absolument détruit lors de cet accident en 1946, ce qui a Il a eu plusieurs fractures du crâne. Il a passé beaucoup de temps en hôpital. Mais c'était déjà un homme un peu bizarre.
Son hypocondrie, elle prenait quelle proportion? Il y a un truc que moi, je n'arrive pas à comprendre. J'ai l'impression, moi, d'être un peu hypocondriaque. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est comment on peut être à la fois hypocondriaque. Alors, vivre reclus, ça, je comprends. Avoir peur des microbes et des germes, je comprends. Mais par contre, ne plus se laver, pisser dans des bocaux et vivre avec des ongles de plus d'un mètre, si vous voulez, pour moi, c'est un peu l'inverse. Quand on est hypocondriaque, c'est pas possible de se laisser aller de ce point de vue-là, puisque justement, c'est contradictoire.
C'est-à-dire, c'est une maladie qui a pris forme à partir des années 40. Quand il a commencé à fréquenter Las Vegas, il a changé de crèmerie, si j'ose dire, de Californie pour aller à Las Vegas pour des raisons fiscales. Et une fois qu'il s'est installé à Las Vegas, il a commencé à pisser dans des bocaux et à garder les bocaux, à se couper les ongles et à garder les rognures d'ongles, à se couper la barbe et à garder les poils de sa barbe, etc. Donc ça, c'est une maladie qu'on connaît quand même. Et peu à peu, le temps passant, il s'est reclus de plus en plus. Mais enfin, la scène la plus amusante, je trouve, dans sa vie, c'est quand on s'est aperçu officiellement, si j'ose dire, qu'il était malade. Un jour, dans les années 50, il pilote un avion quand même parce qu'il adore ça. Et pendant qu'il est aux commandes de son avion, avec son copilote et puis deux ou trois personnes qui sont là, il commence à se déshabiller. Et donc, il est parti habillé et il est arrivé à poil. Donc, piloter un avion avec des gens complètement nus, c'est quand même, enfin, vous me direz ce que vous voulez, c'est quand même un tout petit peu étrange.
Oui, c'est un peu étrange. Autre contradiction dans son hypocondrie, c'est que quand on est pilote d'avion, on fait très attention, vous voyez, il faut quand même être...
C'est mieux.
Et dans le même temps, eh bien, on a l'impression qu'il ne fait pas du tout attention à sa vie.
Il prend des risques. C'est un homme qui a toujours été jaloux, par exemple, de la célébrité de Lindbergh, qui a survolé l'Atlantique. Donc, tous ces records-là lui ont été soufflés sous le nez. Donc, il a fait quand même le tour du monde en avion, en survolant d'ailleurs, dans les années 30, l'Allemagne d'Hitler sans aucune autorisation et sans se faire flinguer. C'est quand même un type qui courait après la renommée, mais la renommée d'aviateur. En revanche, côté cinéma, il préférait rester dans l'ombre. Et de même, pour ses affaires qu'il traitait, parce que c'était quand même un homme d'affaires redoutable, il traitait tout par téléphone. Mais il n'avait pas besoin d'être dans un bureau pour tout ça. Et puis c'est vrai qu'à partir des années 60, quand il est reclus dans sa chambre d'hôtel à Las Vegas, là il sort plus du tout. Étrangement, à ce moment-là, son côté homme d'affaires commence à lui faire défaut. Évidemment, sa folie prenant le dessus. Il reste dans sa chambre. Il s'est entouré à ce moment-là de gens qui étaient des mormons. Et il les appréciait particulièrement parce qu'il exigeait qu'ils soient très propres, évidemment, et qu'ils soient célibataires. Donc, il est mort dans ces conditions. Et ce sont les mormons, d'ailleurs, qui, dit-on, ont hérité de sa fortune, qui se montait, donc à sa mort, dit-on, entre 2 et 3 milliards de dollars.
Il n'avait pas d'enfant? Il n'avait pas de famille?
Non, il n'avait pas d'enfant. Il avait été marié deux fois. Et encore, on n'est pas sûr, parce qu'évidemment, comme tout dans sa vie, tout ça a été un peu mystérieux. Et les deux femmes qu'il a eues se sont beaucoup plaints, secrètement, parce que on l'a appris seulement plus tard, qu'il n'avait aucune attention à leur égard, et que même les relations intimes avec elles étaient extrêmement rares. Il préférait volter de starlette en starlette, y compris, il a quand même eu une liaison avec Katharine Hepburn, et avec Ava Gardner, qui, dit-on, était tellement exaspérée par son attitude qu'elle a pris une cloche de bronze qui était à l'entrée chez elle et qu'elle lui a balancée sur la tête. Il se l'est tenu pour dit, il n'est jamais revenu.
Il lui a cassé les dents. François Forestier, j'ai une confession à vous faire. D'habitude, j'ai beaucoup d'empathie pour les fous, surtout observer leur vie de près.
Mais
avec Howard Hughes, je vous avoue que j'ai un peu de mal. Je suis le seul où il est socialement complètement inadapté et finalement trop secoué pour être humain?
Permettez-moi l'expression, c'était un sale con.
Oui.
Donc, c'était vraiment quelqu'un qui était insupportable. Et les gens que j'ai avec qui j'ai pu discuter il y a des années, qui l'ont connu, m'ont tous dit, dès qu'on le rencontrait, on savait qu'il était fou. C'est-à-dire qu'il avait un regard qui était ailleurs. C'était un homme qui n'avait aucune générosité, qui ne savait pas du tout constituer des relations humaines avec qui que ce soit. Il était complètement en dehors du circuit humain, si j'ose dire. C'était vraiment un animal un peu étrange. sur le plan des affaires, formidable. Sur le plan politique, il avait accès à la Maison Blanche, il suffisait de décrocher un téléphone. Il a quand même réussi aussi à rouler l'État américain en signant des contrats pour fabriquer des avions qu'il n'a jamais fabriqués. Et tout lui réussissait de ce côté-là. Donc, finalement, est-ce qu'on peut dire que c'est une vie réussie? Je ne sais pas. En tout cas, sur le plan humain, c'était vraiment un pauvre type.
Mais voilà, je crois qu'au moins c'est clair.
C'est dit.
Et d'ailleurs, toute la vie d'Howard Hughes, si vous voulez la retrouver, parce que vous la racontez merveilleusement bien, François Forestier, eh bien, il faut lire votre livre « Howard Hughes, l'homme au secret » chez Michel Lafond. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci
beaucoup. Au revoir.
Au revoir. Bye.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, on évoque les grands hypochondriaques de l'histoire. Après Richard Wagner et Howard Hughes, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai de Michel Blanc.
Oui, Stéphane, à travers les personnages qu'il incarne, on pourrait déceler chez Michel Blanc une légère tendance à l'hypochondrie. On se trompe, puisqu'en réalité, dans la vie, Michel Blanc n'est pas légèrement hypochondriaque, il l'est complètement. Je n'ose même pas imaginer à quoi ressemble sa vie depuis un an. Lui qui, déjà avant la pandémie de Covid, vous tendait une main fébrile qu'il vous autorisait à secouer quelques millisecondes avant de la retirer brusquement pour la désinfecter au gel hydroalcoolique dont il fut un des pionniers dans notre pays. Oui, depuis toujours, Michel Blanc l'avoue, son problème numéro un, c'est l'anxiété. Et il a beau essayer de se médicamenter, de voir un psy, et même un sophrologue qui lui a conseillé de s'accorder des moments de lâcher prise où il pourrait expulser la colère qui est en lui.
Je t'encule, Thérèse, je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce.
Il a essayé, rien n'y fait. Michel est toujours aussi hypochondriaque après toutes ces années. À la moindre rougeur, il consulte, à la moindre douleur, il panique. J'envisage toujours le pire, explique l'inoubliable interprète de Jean-Claude Duss.
Avec un dé comme Duss.
Mais d'où vient cette peur panique de la maladie et surtout de cette conséquence parfois fâcheuse de la maladie qu'on appelle la mort? Tout remonte évidemment, comme toujours, à l'enfance. Lorsque Michel Blanc voit le jour en 52, les médecins lui détectent un souffle au cœur. Même si la pathologie n'est pas rare chez les bébés, les parents de Michel vont le choyer et le surprotéger durant toute son enfance, faisant de lui ce qu'on appelle communément un petit con. Visiblement, monsieur et madame Blanc n'étaient pas abonnés à Psychologie Magazine, car tout le monde le sait, ce n'est pas bon de trop protéger un fils unique. C'est un message que j'adresse également à mes parents. Les Blancs vivent dans la banlieue ouvrière de Puteaux. Oui, c'est comme ça que j'imagine la banlieue ouvrière de Puteaux. Le père de Michel est déménageur, jamais de caricature avec moi, puis employé des douanes, sa mère dactylo. Le couple bossant beaucoup, Michel est souvent fourré chez sa tante qui le fascine d'abord parce qu'elle est la première de la famille Blanc à avoir pris l'avion et aussi parce qu'elle possède une platine vinyle avec amplificateur stéréo et ça en 62, c'est la secla. C'est donc chez Tati que Michel Blanc a sa première révélation artistique en écoutant une sonate de Mozart. Sa mère, fière de ses bulletins scolaires, décide de l'inscrire au lycée Pasteur de Neuilly, chez les riches. Très vite, Michel comprend que c'est par l'humour qu'il pourra se sortir de toutes les situations, ne pouvant pas compter sur son physique pour avoir le dessus en cas de baston dans la cour de récré.
Je sais pas si moi tu vas te casser la gueule, tiens.
La trouille, non?
Ouais, ça doit être ça.
Le schéma qu'il adopte alors sera celui qui guidera toute sa vie, faire de ses faiblesses une force. Il découvre son don comique sur les planches lors d'un atelier théâtre, puis rencontre ceux qui vont changer sa destinée. Alors, à ce stade du portrait, j'aimerais quand même souligner l'invraisemblable injustice du destin. Puisque moi, au lycée, perso, j'ai rencontré Viviane Michaud, Cyril Pitouchon et Pierre-Yves Barbotin, ce troisième nom étant véridique, alors que Michaud, lui, dans son lycée, qui rencontre Thierry Lhermitte, Christian Clavier et Gérard Jugnot. Alors, je suis désolé, évidemment que le talent joue dans une carrière, mais il y a quand même une notion de chance, et à un moment, il y en a qui ont eu du rab à la cantine de ce côté-là. Donc Michel rencontre ses camarades, avec qui ils vont créer plus tard la troupe du Splendide, vous connaissez tous l'histoire par cœur, les débuts difficiles, les premières pièces au succès confidentiel, les cinquièmes rôles dans des petits films, les galères pour boucler le budget décor. C'était la dèche, parfois Christian Clavier n'avait même plus assez pour refaire le plein de sa Jaguar. Heureusement, en 76, le succès arrive avec Amour, coquillage et crustacés, la pièce qui donnera 2 ans plus tard Les Bronzés, puis Les Bronzés font du ski dont tout le monde adore la musique. Michel y incarne Jean-Claude Duss, loser magnifique en galère perpétuelle avec les femmes, un rôle pas tout à fait de composition pour Michel Blanc qui avoue « Je me suis inspiré des grands moments de solitude dans les booms quand j'avais 16 ans et qu'il n'y avait rien à faire pour attirer l'attention des filles, ça m'a beaucoup servi ». Vous voyez David, ce qui vous est arrivé avec Constance, cette veste, hein, qu'après toutes ces années il faut accepter d'utiliser le terme veste, eh bien vous pouvez la transcender pour en faire quelque chose de beau.
Bande de tarbas.
C'est dommage de le prendre mal, j'ai juste d'aider. Michel Blanc devient donc une star, mais il est toujours aussi angoissé. Sur le tournage de « Viens chez moi, j'habite chez une copine », il est persuadé qu'il souffre souffre d'une gastro-entérite à rotavirus, qui n'est pas de l'aérophagie, mais une inflammation de l'appendice. Pendant le tournage de Ma femme s'appelle revient, il se lave les mains 487 000 fois et demande à 3 spécialistes de lui confirmer qu'il ne peut pas être touché par un cancer du col de l'utérus. Même dans Marche à l'ombre, sa première réalisation, il saoule ce pauvre Gérard Lanvin.
Je peux plus marcher, bordel, c'est pas de ma faute, je suis sûr que mon entorse s'infecte.
T'es même pas enflé, y a rien. Si ça se trouve, c'est enflé à l'intérieur, puis on voit pas.
Et oui, une entorse qui enfle à l'intérieur et on ne voit pas. Dans Tenue de soirée de Blier, là aussi, il incarne un type qui a peur de tout, alors que vraiment, vraiment, il n'y a pas de quoi.
T'en as d'autres, des amis? Tu vas pas foutre tout ça en l'air pour une histoire de susceptibilité mal placée?
Enfin, je vais tout de même pas me faire enculer sous prétexte que c'est un ami.
Oh, décidément, qu'elle se sente, ce Michel, franchement. De nature indépendante, il sera le premier de la bande du Splendide à voler de ses propres ailes. J'ai du mal en groupe. Au début, on avait les mêmes goûts, on partageait tout, on vivait ensemble. Mais vient un moment où il faut quitter papa et maman pour exister seul. Paris gagnant, puisque sans renier Jean-Claude Duss, Michel deviendra un immense acteur, enchaînant des rôles majeurs et très différents, de Monsieur Hir à L'exercice de l'État, en passant par Je vous trouve très beau. C'est également un réalisateur émérite, auteur notamment du film au titre rétrospectivement le plus choquant de ces dernières années, Embrassez qui vous voudrez. Et en 2006, il se retrouve avec ses potes du Splendide pour mater un film qui vient de sortir. L'ermite manque de s'étouffer.
Je fais cette merde !
C'est Les Bronzés 3. Bon, vous l'avez compris, il n'y aura pas de Bronzés 4, en tout cas pas avec Michel Blanc qui clôt le dossier en disant « Je pense qu'on est allé au bout, c'était marrant de voir les Bronzés jeunes et vieux. Maintenant, si c'est pour les voir à l'hospice, je ne suis pas sûr que ça soit pertinent. » Pertinent, impertinent ou incontinent. Moi, je dis dommage, ça aurait pu être sympa. C'est le problème de Michel, au-delà de son hypocondrie, il n'a parfois pas le pif pour sentir les bons projets. Je terminerai sur ce fun fact castellopien. Saviez-vous que Michel Blanc n'avait pas participé au scénario des Bronzés font du ski?
Non.
Et non. Oui. Et bien pourquoi? Et bien parce qu'à l'époque, il se consacrait à une comédie féroce qui s'appelait « On a mangé l'hôtesse de l'air », tirée d'un fait divers où des rescapés d'un crash aérien se livraient au cannibalisme. Mais le producteur a insisté pour que l'équipe du Splendide travaille plutôt sur la suite des Bronzés. « Moi, j'ai refusé », a dit Michel. « J'ai fait l'hôtesse de l'air, mais les copains ont accepté. L'avenir leur a donné raison. C'est le meilleur des trois, tu m'étonnes. » On embrasse Michel Blanc, enfin de très très loin, hein. Surtout David, puisqu'il n'a pas l'air en forme. On va pas prendre de risques, on sait pas trop ce qu'il a.
On murmure que c'est une maladie vénérienne.
Oui, restant, respect du secret médical, on n'en dira pas plus. Mais tiens-toi à distance, Michel.
Merci Mathieu, c'était 99% vrai.
Il y a 1% de il n'a jamais demandé au médecin s'il pouvait avoir un cancer du col de l'utérus. Ça, j'ai un peu exagéré. Mais il est vraiment comme ça, Michel Blanc. Il est vraiment très très flippé. Vous l'avez évidemment rencontré aussi. Et il serre la main de manière très rapide. Oui. Enfin, à l'époque,
il y en a une autre, Isabelle Carré aussi, qui avait du gel hydroalcoolique
bien
avant même.
Qu'on en ait tous.
Merci.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos grands hypochondriaques. C'est l'heure quand même de retrouver nos deux chroniqueurs préférés.
Ah oui, un bon Michel.
Après Clémentine, bien sûr.
Comme il y en a trois en tout. Elle est partie, on peut le dire. Oui. Alors, Olivier Pouls, chaque jour, l'histoire d'une recette. Et aujourd'hui, une recette assez simple, j'imagine. Le milkshake.
Pour le coup, oui, il n'y a pas de grandes complications. Je pense que même vous allez y arriver, mon cher Mathieu.
Puis toujours même moi, toujours ce mépris.
Non, mais c'est bien, parce que si vous y arrivez, tout le monde peut y arriver.
Oui, mais parce qu'en dehors du risotto... à la vénitienne, je ne vous ai jamais vu vraiment sortir de la cuisine un plat un peu ambitieux. Alors, peut-être un
milkshake. Une omelette. Je peux faire une omelette. Mais il faut bien préciser aux auditeurs que ce n'est pas ça dont nous allons parler dans la suite.
Non,
historiquement,
on va parler du milkshake.
Rassurez-vous.
Milkshake.
On va parler milkshake.
Milkshake, on va parler aussi
le mot de la fin.
Du mot de la fin.
C'est vous qui le donnerez.
Oui, écoutez, on embrasse votre délicieuse fiancée, Mathieu. L'expression du jour, c'est avoir des cornes.
C'est elle qui les a ou c'est moi qui les a?
Je ne sais pas, je n'ai pas les informations.
Vous colportez des
rumeurs. La production. Tous ces gens en régie sont très nombreux à savoir
eux. Ah oui, ils savent eux. Attendez, j'essaie de regarder dans leurs yeux. Et d'abord, pendant que j'essaye de détecter si ma femme me trompe ou pas, David Castello-Lopez nous parle des origines du chou kale.
Le chou kale, j'en ai apporté ici, vous voyez.
Il
a fané un petit peu. Alors pour les besoins de cette chronique, je suis sorti de chez moi. Je suis allé chez Bio C'est Bon acheter du chou kale. Et sur le chemin du retour, quand je marchais dans la rue, il y avait le chou kale qui dépassait un petit peu du sac. Et j'avoue, j'avais honte parce que le chou kale c'est devenu, c'est avec les graines de chia et le cranberry, c'est le plus gros cliché du hipsterisme. C'est-à-dire que c'est une blague, quoi. C'est comme acheter du homard quand on est ministre ou un avocado toast quand on est mannequin. C'est tellement cliché qu'on a du mal à pas sentir sur soi la brûlure du regard des autres.
Enfin, t'habites dans le 11e, donc à mon avis, il y a la brûlure du
18e,
regard.
18e,
c'est pareil. Bah,
le 18e, on vend que du chou kale.
Mais voilà.
Le vrai chou n'existe plus.
Le vrai chou de Bruxelles n'existe plus dans le 18e.
Mais tout à fait. Et moi, je pense que si quelqu'un dans la rue m'avait dit dit « Ah bah tiens, encore un hipster qui achète du chouquel », eh bien je serais parti dans une justification de 5 minutes sur le fait que non, mais pas du tout, c'est pour une chronique, d'ailleurs j'en ai jamais mangé. Mais bon, quand même, je suis rentré chez moi et j'en ai fait des chips de chouquel, assez facile à faire, hein. Peut-être je pourrais me tourner vers Olivier Pouls, mais en gros, on met de l'huile d'olive dessus, un peu de sel et puis on met ça au four 15 minutes et ça fait des chips.
Ça croustille.
Et voilà, ça croustille, c'est super bien. Chips que j'ai ensuite mangé et qui m'ont semblé vraiment avoir le goût de la bonne santé. C'est-à-dire que c'est bon, mais quand même c'est un peu exigeant, c'est un peu amer. Et donc on se dit que puisque c'est pas tout à fait agréable, c'est sans doute que ça doit être par ailleurs bon pour la santé.
C'est le même principe avec certaines eaux minérales, notamment la Contrex.
Tout à fait, la Contrex ou l'AEPA. Bon alors, déjà, c'est quoi le chou kale par rapport au chou pas kale?
Ah oui.
Eh bien, c'est assez flou dans le sens où ce n'est pas un terme scientifique qui décrit le chou, c'est un mot courant qui vient de l'anglais et qui désigne plusieurs types de choux qui ont en commun de ne pas être des choux paumés, c'est-à-dire des choux ronds comme le chou fleur ou les choux de Bruxelles
en
ou le chou de
Milan.
En forme de pomme, voilà. Les choux kale, donc, ce sont des choux dont les feuilles sont bien séparées les unes des autres. Ce sont des petits arbres, des choux arbres. Oui. Et ils ont aussi la caractéristique de résister assez bien au froid, ce qui leur permet de pousser un petit peu toute l'année. Mais je dois dire que le truc qui m'a surpris le plus, c'est que en gros, le chou kale, c'est le plus ancien des choux. Il est cultivé depuis des milliers d'années.
C'est un chou oublié.
C'est un chou oublié. Et pendant très longtemps, il est un peu tombé en désuétude. Et en gros, on ne le donnait plus à manger qu'aux animaux. C'était ce qu'on appelle un chou fourrager. Mais aux États-Unis, à partir des années 2000, il y a la naissance d'une tendance qui depuis a été importée en France. L'obsession pour la nourriture bonne pour la santé. Incarnée en particulier dans ce qu'on appelle les superfoods. Les super aliments qui contiennent une quantité variée de choses bonnes. Et il se trouve que le chou kale, de ce point de vue-là, c'est pas mal, c'est un super food. Il y a peu de calories, plein de vitamines, des fibres, des protéines. Et donc, c'était un excellent candidat pour devenir une star de la cuisine healthy. Et puis, à partir des années 2010, il y a des stars qui lui ont donné un sacré coup de pouce. Gwyneth Paltrow, dans une émission de télévision en 2011. Rihanna, qui est apparue plusieurs fois avec un t-shirt kale. Et surtout Beyoncé, qui a fait un clip entier où elle danse à moitié à poil avec un sweat où il y a marqué kale. Ce qui n'a pu que contribuer à sa popularité. Mais, les jours du kale sont peut-être comptés.
Ah,
c'est ce que pense en tout cas une journaliste du magazine américain The Atlantic qui a remarqué que l'explosion de la consommation du kale aux États-Unis, elle a eu lieu principalement sur deux types de produits. Un, sur les produits où le goût du kale est largement masqué, comme les sauces pour les pâtes. Et deux, surtout, dans la nourriture pour bébés. Donc aujourd'hui, les Américains qui mangent le plus de kale, ce sont les seuls êtres vivants qui ne choisissent pas ce qu'ils mangent, à savoir les bébés. Et puis, il y a des statistiques qui ne présagent rien de bon pour le chou kale.
Ah bon.
C'est le nombre de fois où le mot kale a été tapé sur Google ces dernières années. J'ai imprimé ici deux courbes pour vous. La courbe des occurrences du mot kale dans les recherches Google dans le monde entier et la courbe des occurrences du mot kale dans les recherches Google aux États-Unis. Alors, c'est pas facile de décrire une courbe à la radio. Donc, je vous propose d'utiliser la méthode des radios américaines qui est de siffler les courbes.
C'est une méthode vraiment des radios américaines
tout
ou c'est juste...
Enfin, d'une radio américaine, en tout cas. Le principe est simple. Plus je siffle aigu, plus ça veut dire que la courbe monte. Donc, si je fais... C'est que ça monte. Et plus je siffle grave, plus la courbe descend. Vous voyez ? Oui. Donc, avec cette méthode, la courbe mondiale du chou kale sur Google depuis 2004, elle fait... Vous entendez bien la stagnation sur la fin.
Stagnation, un plateau haut, comme
exactement,
dirait Olivier
plateau,
Véran.
Exactement. Alors maintenant, la courbe américaine, hein, on y va.
Haut, plateau bas.
Plateau bas, elle baisse. Les occurrences des recherches sur le chou kale aux États-Unis baissent. Et comme les tendances aux États-Unis annoncent toujours les tendances dans le reste du monde, je me dis que bientôt, chez nous aussi, on arrêtera d'être aussi obsédé par le chou kale.
Je mettrai un bémol. c'est que...
Si je peux me permettre.
Si vous recherchez un chou kale, c'est pas sur internet, faut aller le chercher. C'est plutôt chez votre primeur.
Et donc, mais il y a une corrélation entre l'intérêt des gens qui, tels que de
oui,
donner sur internet et leur intérêt dans la vraie vie.
C'est tellement répandu que les gens n'ont plus besoin de taper chou kale, ils vont directement l'acheter.
C'est vrai qu'il faudrait que je
demain, les gens ne tapent plus porno, notamment dans internet. C'est tout le monde sait ce que c'est, on n'a plus besoin de taper, par exemple, porno.
C'est vrai. En tout cas, merci David, on retrouve les origines, c'est passionnant sur
c'était
le chou kale.
C'est passionnant, moi c'est la première fois qu'on me siffle une courbe. Je pense pas qu'il siffle des courbes d'ailleurs, à mon avis.
Non, il siffle beaucoup.
Ouais, il siffle beaucoup.
Et sur le site europe1.fr. Mais Olivier Pouls, c'est là pour nous parler du milkshake maintenant.
Oui, après s'être détoxé avec du chou kale, on va se reprendre un peu de calories.
À tout de suite.
16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.
Olivier Pouls, notre expert de la gastronomie, est avec nous pour nous raconter l'histoire d'un produit. Aujourd'hui, le milkshake.
Alors, c'est
très régressif.
C'est très régressif, c'est peut-être plus sympa en été quand il fait vraiment chaud, mais en tout cas, c'est un indémodable, c'est un classique. Tout le monde aime les milkshakes. Mais il faut savoir que le milkshake tel qu'on le connaît aujourd'hui n'a pas toujours existé comme ça. La première trace de milkshake, c'était évidemment aux États-Unis, c'était dans les années 1880. Mais à l'époque, ce qu'on appelle le milkshake, ce qui est un lait frappé en réalité, contenait d'autres ingrédients. Il contenait notamment des œufs et il contenait un peu de whisky.
Ah oui.
Et il était préparé au shaker.
Ça m'a l'air d'être un très bon
avec
milkshake,
des glaçons.
Ça.
Ben, c'est l'origine du milkshake, lait frappé, dans lequel voilà, on
cassait
des œufs.
Mais les blancs ou les jaunes aussi?
Ah non, mais les œufs en entier. Et on shakait ça. Alors c'était une boisson assez énergisante qui donnait un peu de tonus. Et puis il y a deux dates clés qui vont totalement modifier le milkshake. Tout d'abord, l'année 1911. Et il y a une marque qui s'appelle Hamilton Beach. Peut-être, David, connaît-il l'origine du produit qu'ils ont inventé, qui va évidemment tout changer.
Le mixeur ?
Oui, le blender.
Le blender,
on appelle le blender, vous savez, c'est ce bol dans lequel il y a une petite hélice en dessous et qui permet d'émulsionner les produits. Et donc, évidemment, on arrête de faire le milkshake avec le shaker et il vient donc dans le blender, ce qui permet de le rendre beaucoup plus mousseux, beaucoup plus aérien et finalement beaucoup plus agréable à consommer. Et puis deuxième date, c'est 1922. Et là, vous vous souvenez quand on avait parlé du banana split?
Bah, comment oublier?
Ben, vous savez que c'était une chaîne de pharmacie qui l'avait popularisé. C'était la chaîne de pharmacie Walgreens. Mais cette chaîne de pharmacie, elle va aussi avoir l'idée géniale de vendre des milkshakes dans lesquels ils vont mettre de la crème glacée. Et donc, l'idée de rajouter la crème glacée,
c'est
évidemment...
C'est en 1922 que se passe le basculement.
Faire cette recette, ce qui est resté aujourd'hui la recette contemporaine et classique du milkshake, qui est donc un mélange de lait, de crème glacée, en général d'un sirop pour l'aromatiser, ou de fruits, évidemment, vous pouvez choisir. Alors, en ce moment, on n'est pas dans une saison très très riche en fruits, on va pas faire de milkshake à la framboise ou à la fraise, il n'y en a pas. On peut faire la banane, hein, pratiquement, on en trouve toute l'année. Mais le grand classique du milkshake, c'est évidemment le milkshake à la vanille. Et alors, pour la recette du milkshake à la vanille, c'est deux boules de glace vanille, alors d'une vraie glace à la vanille, achetée chez un vrai glacier qui met de la vraie vanille dedans, pas aromatisée à la vanille industrielle. 10 centilitres de lait bien froid, une petite cuillère à soupe de sirop de vanille, là aussi de vrai sirop de vanille, et puis évidemment la crème chantilly par-dessus, parce que ça participe
de
la gourmandise.
C'est vraiment le milkshake bien sale que vous
ça,
faites.
Ça, c'est le vrai milkshake authentique. Donc vous avez mixé votre lait, votre glace et votre sirop, puis dessus vous rajoutez la chantilly, et un petit topping éventuellement, des petits copeaux de chocolat, des petits trucs comme ça, c'est
carrément des toppings.
Ça s'appelle un topping.
Mais je sais comment ça s'appelle. Voilà. Ce qui m'étonne, c'est que vous en mettiez comme ça allègrement, comme un enfant de 12 ans.
Et puis, bien sûr, mais c'est très régressif. Le milkshake. Et puis voilà, dans un grand verre avec la paille qui va au milieu et évidemment qui tient droite dedans.
Enfin, pour déguster ça, il ne faut pas être hypochondriaque.
Non, ça c'est sûr, il faut faire attention. Mais moi, je préfère, je crois, la recette originelle, celle de 1880
avec
les œufs et
le
la petite touche de whisky.
Oh, je vous reconnais bien là.
Eh bien écoutez, vous avez un blender, j'ai le whisky, eh bien on y va.
Avec modération, Olivier. Le mot de la fin nous attend, Stéphane Bern est dans les starting blocks pour nous expliquer une expression qui, moi, me hante depuis longtemps.
Cornuto.
Avoir des cornes, d'où ça vient?
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Chaque jour, il décortique pour nous une expression de la langue française, et certaines expressions, je dois l'avouer, font plus mal que d'autres. Notamment l'expression « avoir des cornes ».
Oui, avoir des cornes, Mathieu. Dans les films, les romans, les séries humoristiques, il y a toujours un personnage pour qui on a toujours un peu de tendresse, un peu de compassion. C'est le cocu. D'où vient l'expression « avoir des cornes » ?
Je trouve ça bien que vous posiez la question, parce que je crois que c'est l'objet de la chronique.
Je vous sens impatient, j'ai l'impression que ce thème vous touche de près, mais ça ne me regarde pas. Mathieu, sachez que cocu, déjà, vient de coucou, un oiseau particulièrement volage qui n'hésite pas à pondre des œufs dans le nid d'autres espèces. En occitan, on disait « cogos », en latin, ça donnait « cogulus », mais une question reste posée. Pourquoi les cornes?
Oui, parce que c'est pas l'oiseau qui a des cornes. Donc Stéphane, pourquoi les cornes?
Au XIIIe siècle, pour dire imbécile, on utilise cornard, qui donnera l'insulte que vous devinez, n'est-ce pas? Au XVe siècle, pour dire se ridiculiser, il y a le verbe escorner. La corne en elle-même désigne le sexe de l'homme. On disait alors, pour dire rendre cocu quelqu'un, planter des cornes. Chez les Grecs, pour parler d'un mari dont la femme était particulièrement réceptive aux élans extra-conjugaux, on utilisait le mot « bouc ». C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Voltaire. Voilà, ayons une petite pensée pour les maris et les épouses trompées. D'ailleurs, le grand Edmond Rostand avait inventé le mot ridicoculisé, un mélange de cocu et de ridicule. Tentons de consoler toutes celles et ceux qui ont des cornes en disant que le ridicule ne tue pas.
Mais donc, il y a eu un changement de oui. perspective. Vous voyez c'est ce que je veux dire? Parce que les cornes, si la corne s'identifie au sexe de l'homme, c'est l'inverse. C'est pas oui. c'est faire cocu.
En fait, on plante
cocu.
Des cornes. Donc, on a planté des cornes, donc on a des cornes.
D'accord, on a planté des cornes. Et
donc,
d'accord.
l'autre on les a, les cornes.
Compris,
vous avez, quand vous avez trompé votre femme, vous plantez des cornes, et donc l'autre a des cornes, il est cocu, parce que vous lui avez piqué sa femme.
Moi, j'aurais cru que connard, ça venait pas de cornes, ça venait de con. En fait, mais peut-être.
Mais Stéphane vient de nous dire l'inverse.
Ouais. Vous
mettez en
cornard.
Cornard. Ouais.
Oh, écoutez, vous savez, j'ai ce sont dans les grimoires. Voilà, j'ai exhumé tout cela Stéphane, de vieux grimoires.
Stéphane, c'est comme quand on est cocu, c'est comme quand on trompe. Il faut pas se justifier. Il faut toujours assumer jusqu'au bout. Jamais laisser une parcelle de doute. Hein. Donc
non,
vous êtes sûr de vous.
Je l'aime bien, lui. Oui, je vais pas non plus. Je vais pas le rabrouer en disant c'est ça. Fais ma chronique à ma place.
Vous aurez pu.
Déjà qu'il a piqué la mienne.
Oui. Bon, ne nous engueulons pas, les amis. Ce nouveau numéro d'Historiquement Vôtre se termine. Stéphane, contrairement à moi, je vous sens vous très serein face à la maladie. Même pendant cette période de Covid, vous savez rester digne.
Oui, il faut toujours.
Vous n'êtes pas du tout hypochondriaque.
Ah non, pas du tout. Et puis, je sais que de toute façon, j'espère mourir en bonne santé.
C'est essentiel. David, vous, je ne vous pose pas la question.
Non, pas particulièrement.
Ah non, pas particulièrement.
Ouais, normal, pas non plus sans inquiétude, mais normal. Je m'inquiète quand il faut m'inquiéter.
Olivier Pouze, vous, vu ce que vous bouffez, j'imagine que vous n'êtes pas hypochondriaque.
Moi, je considère que la meilleure médecine préventive, c'est ce que l'on mange. Donc, je fais très attention.
Faites très attention en enchaînant les côtes de bœuf, effectivement. C'est un très bon programme. Qu'est-ce qui nous attend justement demain, Stéphane, en parlant de programme?
Eh bien, je vous livre le programme de demain sur un plateau.
Ah.
Demain, monsieur est servi. On réunit valets, servantes, majordomes au service d'hommes et de femmes célèbres. Alexandre Bontemps, le premier valet de Louis XIV, Céleste Albaret, la célèbre servante de Marcel Proust.
Et moi, je vous parlerai d'Alfred Pennyworth, le fidèle majordome de Bruce Wayne.
Vous savez que je l'ai incarné ?
Alors attendez, comment ça vous l'avez incarné ? Là, ça fait beaucoup trop d'informations pour
dans
moi.
Dans la version française de Batman.
Alors là, nous allons
c'est
enquêter.
Ma voix.
C'est votre voix.
Alfred
ah, un dessin Pennyworth. Animé.
Dessin animé.
Ah, le dessin animé français. Bah, écoutez, je vais enquêter, mais la prochaine fois, passez-moi un coup de fil parce que j'ai déjà écrit la chronique en fait. On s'arrangera mieux la prochaine fois,
d'accord.
On se retrouve demain.
D'accord, vous saurez tout demain.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.